Bonjour à toutes et à tous, et nous sommes aux Rencontres d'Ambronnet, organisées par le CCR, le Centre culturel de rencontres d'Ambronnet, et l'ACCR, l'Association des centres culturels de rencontres. Une émission en partenariat avec Radio B, radio locale et associative basée à Bourg-en-Bresse. Je m'appelle Inès Lombarté, je suis journaliste à Radio B, et nous allons conclure ensemble ces deux jours de rencontres culturelles avec plusieurs invités sur les thèmes qui ont animé ces journées. À mes côtés, Pierre Bornachaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint et délégué artistique au CCR d'Ambronnet. Donc comment sont nées ces rencontres ?
Alors oui, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces rencontres, elles sont nées de discussions qu'on a pu avoir avec l'Association des centres culturels de rencontres. Nous sommes centres culturels de rencontres nous-mêmes, ici à Ambronnet, et les centres culturels de rencontres, c'est le lieu de la création artistique, mais c'est aussi le lieu de la réflexion. Et on en a profité avec Isabelle et Odile pour imaginer, après deux années très mouvementées et très contrariées, un temps de réflexion sur quelque chose qui nous anime depuis de très nombreuses années à Ambronnet, puisque nous avons, bien évidemment, comme tous les CCR, un fort ancrage territorial, mais nous avons aussi une forte prédominance de l'activité à une échelle européenne. Et c'est l'articulation de ces deux activités qui a été quand même fortement mise à mal par la crise de la Covid ces dernières années, qui nous a amené à cette réflexion. Et on a profité de du fait que la France était présidente de l'Union européenne, de ces 6 mois de présidence française de l'Union européenne, pour imaginer ces rencontres et ce temps où on suspend le temps, justement, pour réfléchir sur ces thématiques que je vais évoquer un tout petit peu plus tard et qui sont des thématiques qui nous tiennent énormément à cœur. L'objectif, c'était vraiment ce temps de la réflexion, mais un temps de la réflexion qui soit sur un format différent de celui qu'on connaît. On n'avait pas envie de s'enfermer pendant 12 heures dans une salle de conférence à réfléchir très très fort. L'idée, c'était vraiment de sortir sur le territoire. Donc on a imaginé un nouveau format, on espère qu'il a fonctionné. En tout cas, c'était une première pour nous, d'aller à la rencontre du territoire, aller à la rencontre des acteurs du territoire. Et donc il y a eu, pendant ces quelques jours, des formats un peu différents, notamment des parcours à vélo, à pied, en bus, qui nous ont permis d'aller rencontrer les différents acteurs du territoire.
Et donc justement, ces trois thématiques, quelles sont-elles ?
Eh bien écoutez, la première thématique, c'était vraiment de se poser la question de pourquoi les jeunes artistes, et de plus en plus de jeunes artistes, s'implantent en milieu rural. D'ailleurs, milieu rural, campagne, on ne sait pas, on a eu beaucoup de débats pendant ces quelques jours sur la manière dont il fallait définir, est-ce qu'il fallait le définir par opposition à la ville ou, donc voilà, c'était, en tout cas, on a de plus en plus d'artistes qui s'inspirent de leur territoire, du territoire d'où ils sont originaires ou d'un territoire sur lequel ils reviennent. Et puis l'autre thématique, c'était comment on arrive à avoir des interactions fécondes entre les artistes et les autres jeunes créateurs, les jeunes entrepreneurs, les jeunes agriculteurs. Donc c'était la manière de voir comment on pouvait articuler toutes ces coopérations et comment elles pouvaient s'inspirer les unes les autres. Et puis la dernière, c'était de réfléchir sur cette première thématique que j'ai évoquée tout à l'heure, cette articulation entre la mobilité, qui, encore une fois, ici, à Ambronnet, est très importante et ne doit pas être évacuée. Et puis, la question du local et comment on peut réinventer une mobilité peut-être différente ou articuler une mobilité à une échelle européenne qui intègre les territoires. Donc voilà, ça a été un peu les trois thématiques qu'on a dessinées pour ces rencontres.
Et donc, quel a été votre bilan de ces deux journées ?
Ah ben, le bilan, puisqu'on en est quasiment à la fin, il est très, très positif. En tout cas, des rencontres très foisonnantes, riches, denses, peut-être... Par moments, peut-être trop dense, mais en tout cas, l'objectif était vraiment de pouvoir rendre compte du plus d'initiatives possible, d'avoir le plus de sons de cloche possible. Et d'ailleurs, on va en avoir quelques-uns autour de cette table aujourd'hui.
Et donc, on commence avec la première thématique sur les jeunes artistes en milieu rural. Donc, avec nous pour en parler, Thomas Pouget. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes de la compagnie La Joie Errante et Claire Delfos, géographe. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Thomas Pouget, peut-être quelques mots sur cette compagnie ?
Oui. La compagnie La Joie Errante est une compagnie donc de théâtre professionnel qui est installée en Lozère. On prône la décentralisation culturelle au plus près des habitants, notamment avec et par le biais de ce que faisait Jean Villard, qui est donc un esprit populaire, ce que lui appelait aussi l'élitisme pour tous. Alors évidemment, populaire, on peut beaucoup débattre là-dessus. C'est un mot qui s'est un peu galvaudé avec le temps. Nous, notre façon de faire, c'est partir à la rencontre des habitants, créer des spectacles avec les habitants, notamment en les interviewant, créant des spectacles en interrogeant, par exemple, les gens qui gravitent autour des milieux qu'on veut interroger. Ça passe aussi par des conventions avec des communautés de communes, où dans ce cadre-là, par exemple, on a des interventions en milieu scolaire. On a des lectures dans des villages de la communauté de communes, ce que je disais ce matin, mais autant dans des communes qui ont 50 habitants que 4000 habitants. Voilà, ces deux villes-là, par exemple, pour prendre ces exemples-là, ont tout autant envie de culture, ont tout aussi besoin de culture. Donc on essaie de mixer, de fédérer les publics autant que possible, afin de créer une dynamique sur un territoire.
Donc une question générale pour vous deux, donc quel est l'intérêt pour un jeune artiste de s'installer dans un territoire rural ?
Alors déjà, il faut bien se dire que c'est un choix de partir vivre en campagne. J'ai encore moi, des copains qui me disent « mais qu'est-ce que tu fais en Lozère ? Je sais très bien ce que j'y fais, je sais l'intérêt à y être. » L'intérêt, il est que d'abord, quand on dirige une compagnie, je crois, on se soustrait quelque part à un désidératum de la part d'autres metteurs en scène, d'autres équipes avec qui potentiellement on pourrait travailler. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on décide de monter une compagnie, c'est une façon de se dire on est créateur de notre propre emploi. Alors avec tout ce que ça comporte, évidemment, de difficultés administratives, de lourdeurs administratives, etc., on ne fait pas que de l'artistique. Mais voilà, ça a l'intérêt en tout cas de prôner exactement ce qu'on veut faire, d'être créateur vraiment de ce qu'on imagine pouvoir faire. Ça a un autre intérêt pour moi qui est celui que j'ai l'impression, en vivant en campagne, d'appartenir à un paysage. C'est-à-dire que j'habite dans un tout petit hameau, mon voisin est paysan, mon autre voisin est à la retraite. Si j'ai besoin, c'est très pratique ce que je vais dire, mais si j'ai besoin d'aller fendre du bois et si j'ai besoin d'aller couper des billots de 2 mètres, je peux très bien prendre le tracteur du voisin, il y a une entraide qui se met en place quand eux ont besoin, etc. J'ai l'impression que ça participe à cette chose-là qui est de fédérer un public, d'inviter par exemple les petits-enfants du voisin au spectacle. L'habitude n'était pas prise pour eux, mais ça y est, depuis que je suis installé, depuis 3 ans, c'est eux maintenant qui demandent aux grands-parents de les amener au spectacle. Voilà, moi l'intérêt, il est que lorsque je travaille en Lozère, quand je travaille en campagne, je connais de manière intime, finalement, les gens. Ce sont des relations humaines profondes qui se créent et des relations de confiance.
On évoquait ce matin, ou ce matin ou hier, je ne sais plus, Thomas, cette question du temps long. Vous disiez, voilà, moi il me faut au minimum un certain nombre d'années pour pouvoir vraiment m'inscrire sur mon territoire. C'est ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que vous ne trouviez pas auparavant, ou c'est aussi ce que vous avez cherché sur ce territoire-là ?
Oui, encore une fois, l'argent public retourne au public, je ne répéterai jamais assez, mais j'ai l'impression que pour créer des habitudes de... pas de consommation, mais pour créer des habitudes de spectacle, pour en tout cas inviter le public régulièrement au spectacle vivant, mais que ce soit spectacle vivant, que ce soit aussi sur des vernissages, que ce soit pour les artistes peintres, etc., pour des expositions. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se construit dans le temps, dans la mesure où il faut du temps aussi, par exemple pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées, de venir goûter une première fois, puis de revenir une seconde fois, troisième fois, quatrième fois, et que les liens se font au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression que, par exemple, les journées qu'on a eues là de réflexion, c'était assez curieux à observer. On est tous arrivés le premier jour... On était chacun dans notre coin avec notre petit verre de blanc, en se disant, bon, qui est-ce qu'on est, chacun ? Puis très vite, il y a eu la première chose qui s'est passée avec l'intervention de Greg. Ça a permis de délier certaines langues. Puis le deuxième jour, ça y est, il y a des affinités qui se créent. On prend des numéros, on échange, on se dit, tiens, moi, voilà, j'aimerais travailler là-dessus. Est-ce que ça t'intéresse ? Et on finit un troisième jour en se disant, hey, on se revoit, hein. Il y a des choses à faire. Mais encore une fois, c'est parce que ça s'est inscrit... dans le temps, et que pour le coup, entre jeudi soir et samedi soir, on a vécu, pas 24 heures sur 24 ensemble, mais une bonne partie de la journée ensemble. Dans la mesure où nous, on fait des spectacles que ça dure moins longtemps, les spectacles, même si on accompagne toujours après avec des échanges conviviaux, je pense qu'il faut le voir sur le long terme, toujours.
Donc, le point de vue de la géographe, Claire Delfos, qu'est-ce que vous pensez donc de ces jeunes qui vont dans les zones rurales pour faire leur art ou faire de la culture ?
Donc ce phénomène d'installation d'artistes, qu'ils soient jeunes ou pas, ou peut-être un petit peu moins jeunes en milieu rural, n'est pas un phénomène récent, on va dire, qui peut-être qu'il y ait plus d'attractivité ces dernières années, mais c'est un mouvement qu'on a pu voir depuis quand même quelque temps. Et ces installations, elles sont motivées par plusieurs choses. C'est vivre à la campagne, puisqu'il y a eu quand même des campagnes, une attractivité pour vivre en milieu rural, et déjà avant le Covid. Donc c'était déjà un mouvement. Ensuite, certains sont venus pour y vivre, mais pas forcément pour y travailler ou y créer. D'autres sont venus aussi pour y vivre et y créer parce que le foncier, l'immobilier est moins cher qu'en ville, surtout sur des activités qui nécessitent de la place, peut-être comme la sculpture ou certaines formes, voir le théâtre peut-être aussi, avoir des lieux pour créer par exemple. Et puis tout en continuant aussi à diffuser à l'extérieur, en ville, ailleurs. Donc on est bien aussi dans ces enjeux de mobilité, en fait. Et puis d'autres sont venus, alors, sans que ces catégories soient étanches, bien entendu, sont venus aussi pour, comme tu disais, un paysage, autre chose, une autre relation au public, une autre relation au lieu de diffusion, et une autre relation peut-être à son environnement, tout simplement, voir être plus libre dans la création et innover dans les partenariats entre disciplines artistiques, voire relancer des disciplines qui étaient un peu minorées. Mais ça, je ne parle pas d'aujourd'hui, d'il y a quelques années aussi. Je pense que la renaissance de la marionnette, du conte, ça s'est fait aussi beaucoup en milieu rural. Donc je pense que ça, c'est des choses aussi importantes. Ce qu'il faut voir, c'est on va en milieu rural, mais ce n'est pas étanche. Et on est dans nos débats sur c'est quoi le rural, mais on est dans des territoires qui sont reliés aussi. Et donc je pense que toutes les situations sont aussi difficiles et que ces dynamiques, elles sont différentes aussi d'un territoire à l'autre. Il y a aussi des personnes qui vont s'installer pour créer des lieux où des artistes urbains vont pouvoir venir créer, répéter, par exemple. Donc je pense à des territoires qui sont entre Saint-Étienne et Lyon, par exemple. Voilà, il y a plus de place, c'est moins cher. Et puis d'autres qui viennent aussi par opportunité, parce qu'il y a moins de concurrence sur des théâtres, par exemple des compagnies qui vont aller dans des théâtres de villes moyennes ou de petites villes. Mais ce n'est pas que des choix par défaut. Hein. c'est aussi une forme d'attractivité, de renouveau. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, puisqu'on était dans le parallèle avec l'agriculture, cette attraction pour faire autrement et vivre autrement, qui n'est pas le cas de tout le monde non plus dans ces installations, mais qui en fait partie, ainsi que des collectifs qui associent assez souvent aussi le rachat d'une grande ferme, par exemple, ou d'un grand bâtiment, et qui est parfois partagé entre artistes, agriculteurs, disons maraîchers ou éleveurs, etc. Ou des projets aussi qui sont suscités, je pense, par des collectivités territoriales, j'ai vu, qui rachètent un bâtiment d'exploitation agricole avec des terres et qui vont chercher à installer des agriculteurs, mais avec un cahier des charges. Et j'ai vu, dans certaines communes, un cahier des charges avec un volet culturel. Donc, il y a nécessité l'association entre un maraîcher, un éleveur qui partait en transhumance, on est en zone de montagne, et puis aussi des acteurs, des artistes. Voilà.
Donc vous avez participé à ces journées, vous avez fait la marche notamment jusqu'à une ferme à Embronnet. Donc qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ces journées? Comment vous ressortez?
Alors, c'est chez les géographes, il n'y a jamais de colloque sans qu'il y ait de journée de terrain et de dégustation de produits de terroir. Donc ça, c'est surtout les géographes ruralistes en particulier. Donc pour moi, ce n'était pas très dépaysant de ce point de vue. En revanche, c'est le format, les échanges j'ai trouvé intéressant et différent. Université, on vient souvent on fait notre communication, chacun après l'autre, 20 minutes, et hop, et on discute beaucoup dans les couloirs. Mais là, on a eu le temps de discuter. En plus, on a intervenu plusieurs fois, pas une seule fois sur un point, pas avec quelque chose formel et calibré, pas tout le temps. Et je pense que du coup, ça enrichit beaucoup les échanges. Et pour moi, qui suis chercheur, enseignant-chercheur, bah, ça me nourrit aussi beaucoup pour mes cours, pour mes recherches, tous les échanges qu'on a pu faire ensemble.
Ben merci Claire Delfos. Je rappelle que vous êtes géographe. Thomas Pouget, vous restez avec nous pour le prochain thème.
Vous écoutez Radio B.
Radio.
Donc ces rencontres ont permis de faire croiser plusieurs champs d'activité, l'agriculture, l'art, l'industrie. Donc Thomas Pouget, vous êtes toujours avec nous et on accueille donc Lucille Claire, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes artistes tous les deux, donc vous avez participé à ces journées. Quels sont vos retours de ces journées en tant qu'artiste ?
Effectivement, on parlait tout à l'heure de densité, c'est exactement le terme que j'ai en tête, c'est assez incroyable, c'est nourrissant, c'est très nourrissant je trouve en tant qu'artiste d'entendre autant de choses. Que ce soit des politiques culturelles, que ce soit d'entendre, j'ai entendu l'expression tout à l'heure, entendre des artistes parler à des artistes, et il y a une nourriture comme ça qui est apportée et qui nous permettra sans doute de créer plus tard. Je pense que c'est des journées qui demanderont une digestion et qui amèneront beaucoup dans les semaines à venir pour chacun d'entre nous dans nos corps de métier.
Oui, moi je suis d'accord avec tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'excessivement rassurant dans le fait que ce soit les chercheurs, que ce soit les membres des CCR, que ce soit les artistes, on parle des mêmes choses. Pour moi, c'est, voilà, je le redis, excessivement rassurant. J'ai l'impression qu'il y a moins de solitude aussi parfois face à des situations qu'on peut traverser, de se dire que la question des publics, la question des territoires, la question de ce qu'on appelle la ruralité ou la campagne, c'est selon, on y est tous et toutes confrontés. Parfois pas tout à fait de la même façon, mais en tout cas, on finit par se rejoindre sur ce type de réflexion. Donc effectivement, ça a été très dense depuis jeudi soir. Il y a plein de prénoms, de noms, de fonctions à retenir, d'essayer d'imaginer déjà des choses l'après. Mais c'est enrichissant, oui, particulièrement enrichissant.
Il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu, qui vous unit tous les deux, c'est ce rapport à l'agriculture. Thomas, vous en avez beaucoup parlé pendant ces deux jours. L'agriculture est pour vous une matière première artistique. C'est celle qui nourrit le plus votre art, votre compagnie, vos pièces, etc. Donc j'imagine aussi que le lien avec le territoire et votre implantation est donc tout à fait, bien sûr, tout à fait cohérente. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? Est-ce que c'est fortement ancré en vous, de toute façon ? Mais on sent, de toute façon, ce rapport très fort à la matière agricole.
Ce qui est arrivé d'abord, c'est-à-dire que c'est moi, puisque je suis fils de paysan. Donc c'est le premier acte qui a été posé, hein, ça c'est clair. La seconde chose, c'est la campagne qui m'a vu grandir dans la mesure où on était assez excentré de tout type de lieu culturel pour des raisons pratiques qui étaient mes parents trayaient le matin, trayaient le soir. Donc après la traite, partir au spectacle vivant à 20h quand eux finissaient juste la traite, c'était pas envisageable. C'est quelque chose que j'ai découvert notamment grâce à ma grand-mère, la poésie, ce que je disais ce matin, la littérature, les réflexions que j'ai pu mener. Puis c'est quelque chose qui m'a suivi un petit peu. Mes parents, au départ, n'étaient pas partisans que je sois comédien, certainement par amour, tout simplement, parce que je pense qu'il y avait une appréhension certaine quant au métier d'artiste. Il y avait aussi un petit peu d'ignorance face à ce que ça pouvait être. Mais ce dont je suis persuadé, ça m'a coûté un peu cher en psychanalyse, mais aujourd'hui j'y arrive, c'est que je crois que l'acte en campagne, ou en tout cas l'acte paysan, un geste est un geste, il est précis parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc je crois que dans mon travail, ça se retrouve. Je fais un travail sur le plateau qui est très épuré. J'ai besoin de laisser la place à l'imagination, j'ai besoin de laisser la place à l'imaginaire du spectateur, j'ai besoin que ce soit aussi le spectateur qui travaille. Je crois qu'on a ça en commun entre culture et agriculture, qu'on sème une graine, on ne sait pas vraiment si ça va prendre ou pas, ça va dépendre du climat, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de l'ambiance qui règne autour, ça va dépendre de la saison, ça va dépendre... On parle de saison culturelle, c'est ce qui est assez curieux et marrant. Je suis persuadé que voilà, d'être né dans une famille de paysans, d'avoir cet héritage-là aussi de mon grand-père et de ma grand-mère, qui n'étaient pas tout à fait paysans, mais c'était la génération encore au-dessus, mais ils y ont grandi. Je suis sûr que ça a formé aussi, ce que je disais ce matin, un certain acharnement au travail, parce que les paysans comme les artistes, on ne compte pas nos heures. Et si on commençait à le faire, je pense que ça commence à coûter un petit peu cher. Mais voilà, on est sans relâche au travail, on remet l'ouvrage sans cesse, voilà, sur le devant de la scène. On se questionne énormément, on cherche toujours à mieux faire, je crois, pour beaucoup. Mais comme beaucoup d'agriculteurs qui cherchent à perfectionner leur production, qui essaient de mieux faire, qui essaient de se poser la question du consommateur de la même façon que nous, on se pose la question du public. Donc oui, c'est sûr qu'après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à 31 ans, vivre en campagne, j'ai l'impression de manière, encore une fois, pratique, c'est un mot qui me plaît beaucoup, j'ai l'impression que quand je vois pousser mes semis dans la véranda, j'ai l'impression de prendre le temps de voir évoluer les choses. J'ai l'impression que c'est un rythme à prendre. J'ai l'impression que ça fait partie d'une certaine contemplation qu'on a en campagne face à la nature. J'ai l'impression qu'à l'automne, on voit des feuilles tomber, on sait que la saison morte arrive, on sait que ça va repartir, on sait que c'est cyclique, on sait qu'il faut laisser le temps aux choses de se faire. Pour moi, ça participe de la même façon sur le travail artistique. On sait qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Mmh. Des fois, on se trompe. Et heureusement qu'on se trompe, ça permet d'apprendre différemment. Mais voilà, ça participe à être en lien permanent avec ce qui se passe dehors.
Ouais, tout à fait. Alors, Lucille, vous, c'est pas sur un lien de contemplation, mais plutôt sur un lien d'action en lien, finalement, avec la culture et l'agriculture. Je voulais vous interroger sur ces paniers artistiques.
Alors effectivement, moi je rejoins un peu le parcours de Thomas sur autre chose. Je suis issue aussi des campagnes. Alors on en a beaucoup parlé dans ces deux jours. Il n'y a pas que les métiers agricoles. Moi, je suis une fille d'artisan, une fille de menuisier. Donc c'est d'autres corporations. Mais on a aussi cette notion du geste bien fait et du temps qui compte et qui défile vite. Et effectivement, on en a vu l'exemple sur deux jours. Il y a énormément de dispositifs culturels, artistiques qui s'inspirent de modèles qui sont déjà développés au milieu agricole. Et pour le coup, au niveau des paniers artistiques, c'est une initiative qui n'est pas née en Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans les Pays de la Loire, en plein Covid, où la question a été très compliquée de se dire comment est-ce qu'on travaille dans un temps arrêté dans un pays gelé au niveau des programmations. Et l'urgence était d'amener du salaire pour les artistes, les techniciens, techniciennes et le personnel administratif. Et donc est né les paniers artistiques qui sont, on va dire, un peu une sorte d'AMAP. Vous ne savez pas, dans le colis de l'AMAP, quels légumes vous allez avoir pour la soupe du soir. C'est Antonia qui disait ça tout à l'heure. Et je trouve l'analogie tout à fait juste. C'est-à-dire que les paniers artistiques, c'est 5 jours de création, 5 représentations, environ 100 heures de travail rémunérées pour les artistes qui sont sélectionnés dans ces paniers-là. Et la représentation est une surprise, comme vous ne savez pas quels légumes vous aurez avec la MAP. C'est-à-dire que les lieux qui accueillent, les lieux intermédiaires qui accueillent ces créations-là, qui sont des formes courtes, parce qu'en 5 jours, on ne peut pas faire une heure et demie de spectacle, donc c'est souvent 20-30 minutes de création, ne savent pas ce qu'ils vont avoir comme spectacle, ni la discipline, ni le thème, les spectateurs et spectatrices non plus. Donc c'est toute cette surprise-là qui se crée, et évidemment avec un dispositif qui est là avant tout pour du salaire d'urgence, pour des intermittents et des intermittentes qui en ont besoin. Donc c'est tout un travail de créer des bourses au travail, de créer des symbioses entre des artistes, des techniciens, techniciennes qui ne se connaissent pas, pour créer des sortes de bulles artistiques, de production artistique, le temps d'une nécessité de travailler et d'avoir un salaire.
Et ça a eu lieu concrètement ?
En effet, alors l'association a été montée dans un temps record par les militants et militantes qui ont monté ça en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour la petite histoire, c'est aussi issu des mouvances d'occupation des lieux culturels qui ont lieu en mars, avril, mai 2021, où beaucoup de nos débats ont mené à cette nécessité de revenir à nos cœurs de métier et du temps salarié, du temps rémunéré. Et donc c'est les occupants et occupantes du TNP pour la plupart à Lyon qui ont, moi ils m'ont ébahi de travail le temps d'un été. Ils ont monté l'association en juillet, en août toute la structuration était faite et en septembre les premiers paniers étaient nés. Donc c'est assez remarquable. Il y a encore cette année une saison de paniers qui est en train de se créer. Toute la difficulté, c'est trouver les participations financières des politiques culturelles pour financer ces paniers-là. Et c'est un travail de terrain au fur et à mesure qu'on développe les choses sur les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et ben merci Lucille Claire.
Radio B, les bonnes ondes.
Donc on va passer à la troisième et dernière thématique, les liens entre local et international. On va juste présenter Charlotte Routureau. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ?
Oui, donc moi je suis accompagnatrice du changement dans les organisations culturelles, sportives et touristiques, notamment pour les aider à intégrer les enjeux écologiques et sociaux qui peuvent amener à des changements de pratiques, des changements de métiers et même potentiellement des transformations à moyen ou long terme.
On a fait une table ronde ce matin sur ces questions de mobilité et sur la nécessité d'articuler la mobilité européenne à une éco-responsabilité, à un ancrage sur le territoire et un rayonnement sur le territoire qui découle de cette mobilité, de travailler sur du temps long. Mais malgré tout, j'ai trouvé, moi, que lors de cette réflexion, ce qui ressortait, en tout cas, Charlotte, peut-être que je ne sais pas si tu as eu le même sentiment, c'était que la mobilité était... Voilà, les voyages forment la jeunesse, elle était quand même malgré tout très très importante.
En effet, les enjeux de mobilité dans la culture, mais comme dans d'autres secteurs, se révèlent être... des enjeux extrêmement importants, d'diversité culturelle, mais aussi des enjeux qui aujourd'hui commencent à se confronter aux enjeux climatiques et sociaux que notre société va devoir accueillir ou faire avec, ou du moins va être confrontée à ça dans les années à venir. Et les enjeux de mobilité internationale sont des enjeux d'empreinte carbone. Ils peuvent avoir on peut les considérer comme des endroits d'émissions de CO2 à très forte proportion. Mais c'est aussi des moyens de pouvoir favoriser l'interculturel, les échanges et la création, comme on a pu entendre ce matin, et la mobilité des artistes du Sud, des pays d'Afrique du Nord, aussi sur les continents européens. Donc c'est pas un sujet facile, la mobilité. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de recette miracle sur comment faire pour traiter ce sujet de la mobilité. Et de moi, ce que je peux voir, c'est que l'enjeu, c'est d'expérimenter. L'enjeu, c'est d'expérimenter de nouveaux modèles pour se dire comment, dans 5, 6, 7 ans, on arrive à garder une forme de résilience face aux enjeux qui arrivent, et comment on arrive à adapter nos modèles. Et pour ça, pour moi, ça passe vraiment par des expérimentations à petite échelle, d'essayer, de voir ce qui fonctionne, de pouvoir capitaliser sur ça, de se dire... Ça, c'est super modèle, on peut continuer. Ah, ça n'a pas bien fonctionné, on va changer. Et pour moi, ça, c'est l'enjeu du secteur culturel. C'est de là laisser justement le champ libre, la créativité complètement ouverte sur ces enjeux de mobilité et de le voir en fait comme une opportunité de se réapproprier certaines zones rurales, périurbaines aussi, qui peuvent être peut-être délaissées ou comme des déserts culturels, comme certains peuvent l'appeler. Mais en tout cas, pour moi, il y a un vrai enjeu de se dire que la mobilité... en fait, on peut l'avoir aussi comme une très belle opportunité pour re-questionner notre rapport à la culture sur les territoires et comment on le crée avec les habitants, comment on crée des dynamiques aussi et comment un certain nombre de personnes peuvent quand même continuer à vivre de ces métiers et à continuer de pouvoir soutenir des courants artistiques qui sont nés de la mobilité. Tu le parlais tout à l'heure, Pierre, du baroque, c'était l'un des enjeux. Et voilà, donc cette articulation est extrêmement complexe, mais pour moi est riche de créativité dans les années à venir.
Thomas, en quelques mots.
J'ai l'impression que ce lien-là, sur la mobilité, ça pose, pour nous, ça pose quelques paradoxes. C'est que d'abord, quand on parle de mobilité de territoire, fatalement, il faut se déplacer sur les territoires les plus excentrés. Nous, pour répondre à cette question-là, la compagnie, on a décidé d'investir notamment dans du matériel pour être autonome, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'électricité, on veut faire ça avec des panneaux solaires, on a créé un système qui nous permet d'aller jouer autant en forêt que dans des lieux plus excentrés où il n'y a pas besoin d'électricité. Donc on a fait déjà cette première chose l'été dernier pour le festival qu'on dirige Champs Libres, du coup, où ça se joue en pleine forêt le plus souvent. La deuxième chose, c'est qu'on est parti du constat que certaines salles n'étaient pas équipées, il n'y avait pas de lieu culturel à proprement parler. Donc cette année, on a répondu à un appel de la région Occitanie. On a été lauréat pour mettre en place ce qu'on a appelé un camion scène. Voilà, donc on a un véhicule utilitaire qui tracte une scène qui est autogérée. Et avec le système d'autonomie énergique, On arrive à les jouer partout avec une scène qu'on déplie très facilement, il n'y a besoin de rien, on arrive à s'implanter partout. D'autre part, quand on crée des spectacles, on réfléchit évidemment à notre empreinte carbone. Je le disais ce matin, mais quand on fait un spectacle sur l'agriculture, fatalement qu'on se pose la question des costumes. Fidèle à ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que moi, je suis pour des acteurs qui s'habillent en noir de manière à ce que le public puisse se projeter comme il l'entend. Donc ça veut dire que je pars du principe, je continue mon raisonnement, mais ça veut dire qu'un t-shirt noir, un pantalon noir, ça suffit. Mais où est-ce que je vais aller chercher ? Est-ce que je me dis que je vais chez H&M, Célio et Jules, pour citer trois marques, comme ça on n'a pas d'ennui. Soit je vais essayer de chercher chez des producteurs locaux. Il se trouve qu'en Lozère, on a un fabricant de jeans qui s'appelle Atelier Tuféry. On va leur parler du projet, ça leur parle, ils nous disent, il n'y a pas de problème, on vous mécène et pour le coup, on vous donne des jeans. Ça passe par des t-shirts qui sont fabriqués en Aveyron, même démarche, on leur explique le projet, ils soutiennent en disant c'est bon. S'il faut aller construire la prochaine création, c'est sur le périurbain. Et on veut notamment parler des classes laborieuses, de la précarité, du prolétariat. Je ne me vois pas construire ce projet-là en me disant... Déjà, en termes de scénographie, le décor va être démesuré. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas de sens de parler de la précarité en mettant sur le plateau, je ne sais pas, mais des décors à hauteur de, je ne sais pas, 50 ou 60 000 euros. Ça pose des questions éthiques. Mais ça pose aussi la question, effectivement, des transports. Comment est-ce qu'on fait venir les acteurs ? Ça fait bien longtemps et on ne l'a jamais fait de faire venir les acteurs ou actrices ou les partenaires en avion. Enfin, ce soit en Lozère, pas tout de suite l'aéroport.
Mais on se rend bien compte quand même que largement au-delà de la question des transports, on est sur chaque action compte.
Ah ouais.
Voilà, donc c'est une sensibilisation qui est faite à tous les niveaux, les décors, les costumes pour le théâtre, la nourriture, l'hébergement, etc. Donc c'est aussi une sensibilisation qu'on essaye de faire pour les artistes qu'on accueille et qu'on fait de plus en plus, mais qui est une question qui est très importante. Merci beaucoup Thomas et merci beaucoup à vous. Charlotte.
Merci. Donc on passe maintenant à la conclusion avec Isabelle Battioni, directrice du CCR, et Odile Pradem-Fort, directrice de l'ACCR, l'Association des Centres Culturels de Rencontre, et Sylvaine.
Radio B, 90 FM.
Alors donc pour la conclusion, on accueille Isabelle Battioni, directrice du CCR d'Ambronay, Odile Pradem-Fort, directrice de l'ACCR, et Sylvaine Gieny, qui a été dessinatrice tout au long de ses journées. Donc on commence avec vous, Isabelle, pour une conclusion de ces différentes journées.
C'est un petit peu difficile parfois de conclure. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment Sylvaine, qui nous a ponctué de magnifiques dessins tout au long de ces journées, en fait, et avec un effet de synthèse parfois saisissant, on se voyait parler de ce qui nous lie, de ce qui nous délie, de cette tension de l'un à l'autre. On avait un dessin qui expliquait tout et toute la complexité en fait, des sujets en 30 secondes, c'était là. Il y a quelque chose d'absolument saisissant, je trouve, dans ce vertige un peu visuel et en même temps qui nous éclaire nous-mêmes comme un miroir d'une grande efficacité qu'on peut peut-être pas forcément mesurer dans une radio. Mais en tout cas, le sentiment est très puissant quand c'est tout ce qui relève aussi du dessin de presse, d'une certaine manière. Donc ça, c'était une première chose, et on va avoir grand plaisir à vous écouter. Moi, ce que je retiens aussi de ces journées, c'est la joie de la participation. C'était une première pour nous, à Ambronay, de faire ces rencontres. On a été vraiment heureux d'accueillir les centres culturels de rencontres et de voir une forme de, ce que disait Thomas, d'unité de problématiques que chacun aborde de son point de vue. Enfin, je vois aussi des musiciennes et des musiciens ici qui n'ont pas parlé, mais qui exactement auraient pu avoir des mots à peu près comparables de ce qu'a dit Thomas ou Lucille. On a vraiment, je pense, pu échanger aussi sur ces expériences. Notre envie, c'était de faire une expérience sensible de territoire, une expérience sensible du dialogue et avoir un beau moment de convivialité en même temps. Qu'on puisse être heureux de se retrouver ensemble et d'avoir des moments d'échange. Alors, je sais qu'effectivement, c'était dense. Et on avait quand même une variété de personnes qui étaient là. Il y avait l'État sous différentes institutions. Il y avait les départements. Il y avait la Fédération nationale des directeurs ou directrices des affaires culturelles. On avait des têtes de réseau, l'UFISC notamment. C'était une expérience absolument multiple, de différentes perspectives. On avait aussi des gens locaux, enfin des gens qui font du dessin à l'hébergement de Varey, par exemple, des jeunes qui veulent créer leur lieu. Donc cette diversité-là, je trouve, c'était réjouissant. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir prendre en compte, de s'excentrer, de prendre en compte diverses perspectives et de essayer de rester pertinent, parce que finalement, un centre culturel de rencontre, comme le disait Pierre, on est dans un lieu, on est dans un monument historique qui est propriété du département, qui était là aussi, et du département de l'Ain, mais dans des perspectives de politique culturelle aussi et d'enrichissement d'un territoire. Et en même temps, nous-mêmes, notre histoire, on vient d'un festival, on vient d'une musique ancienne, on est reconnu au niveau européen. Et cette dialectique de l'un à l'autre, en fait, c'est très important pour nous. Indépendamment de la question, effectivement, de prendre en compte les transitions écologiques et de prendre en compte aussi le bien-être des personnes. Enfin, on a beaucoup parlé aussi de la difficulté de se lancer dans cette carrière. Comment est-ce qu'on vit quand on commence? C'est la même chose chez tous les entrepreneurs. Et nous, on l'aborde du point de vue des artistes.
Donc, Odile, un petit mot aussi pour conclure ces journées.
Alors, ça ne sera pas un petit mot, ça sera trois. Nicolas, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de ces journées, vraiment, je l'en remercie, nous avait proposé un petit jeu en ouverture ou en préparation qui était un glossaire. Et le glossaire a été plus ou moins enrichi au fur et à mesure de la préparation et puis ces derniers jours. Et il y a trois mots que j'ai envie d'ajouter, moi, aujourd'hui, à ma propre surprise. Mais voilà, ces trois mots, c'est « humilité », ces surprises et ces diversités. Humilité, pourquoi ? Parce que... Et j'aurais jamais imaginé que j'aurais mis le mot humilité dans le glossaire au départ, mais humilité, pourquoi ? Parce que on croit tellement à titre individuel détenir des vérités. On parle beaucoup dans nos centres culturels, dans le réseau de centres culturels, on parle beaucoup d'excellence. Et avec la notion d'excellence, il y a quelquefois la notion de détention d'un savoir. Moi, ce que j'ai vérifié et vraiment saisi pendant ces deux jours, c'est à quel point on doit sans cesse renouveler, on ne doit jamais cesser de réinterroger nos certitudes. Alors, ça va ensuite avec le deuxième mot qui est surprise. Il faut la surprise, par exemple, de constater que j'imaginais naïvement que dans la définition du métier d'artiste aujourd'hui, il existait plutôt un certain consensus. Et je me rends compte que de ceux qui rêvent d'un retour à la révolution culturelle de Mao, qui consisterait à envoyer les artistes au camp de travail, à la vision un peu idéaliste de l'artiste complètement éthéré et loin des réalités de ce monde, il existe toutes sortes de définitions du métier d'artiste. Donc, n'hésitons pas à continuer encore dans des rencontres et dans des moments comme ceux qu'on vient de vivre là, à interroger la place de l'artiste, que ça soit à la campagne ou en milieu urbain. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité d'interroger cette notion de ruralité dont on parle toute la journée. Et finalement, il y a un chiffre tout à l'heure qui nous a été livré. Seulement 8% de la population européenne est constituée d'agriculteurs. Donc ça veut dire que dans les campagnes... contrairement à l'image très 19e qu'on a tous dans notre esprit, les campagnes ne sont pas peuplées de laboureurs, mais de toute une diversité de populations et d'acteurs. Et donc c'est le troisième mot qui est le mot de diversité. Toutes ces questions qu'on a soulevées, c'est déjà quelque chose que Olivier Coche, l'agriculteur qui nous a reçus hier, et les invités qu'il y avait autour de lui nous ont livré, mais c'est vrai aussi dans le domaine culturel et dans le domaine artistique. Il n'y a pas une seule réponse et une réponse toute faite aux questions qu'on a soulevées. Et il y a une diversité de réponses. Et ce qu'il est important de défendre aujourd'hui, c'est cette notion de diversité, de biodiversité. Il y a plein de, on a soulevé plein de questions. On n'a répondu à aucune. Enfin, j'espère qu'on est, on n'a pas la prétention d'avoir répondu à, aux questions. Et il y a une diversité de réponses. J'aime beaucoup la notion dont parlait Charlotte à l'instant, d'expérimentation. J'espère qu'on va pouvoir continuer, au travers de rencontres comme celle-là, dans les différents centres culturels de rencontres, à soulever des questions et à apporter des réponses très diversifiées.
Merci Odelle Pradem-Fort, directrice de l'Association des centres culturels de rencontres. Et on va terminer avec vous, Sylvain Génie. Donc vous avez dessiné tout au long de ces journées ce qui s'est passé. Donc là, on ne peut pas voir, mais est-ce que vous pouvez nous faire un résumé oral de ce que ces journées vous ont inspiré?
Alors, ce sont des journées extrêmement riches. Et donc, je dessine en écoutant les intervenants, les gens qui discutent, les dialogues qui se sont... tissé au fur et à mesure de ces deux journées. Donc je suis un petit peu en retrait, mais en fait, il y a des fois où je sens que le dessin ne peut pas être en retrait, qu'il a besoin de marteler quelque chose, parce que je sens qu'il y a une réaction dans la salle. Et donc, au fur et à mesure d'être avec tout le monde, d'être ensemble, je commence à sentir plus aussi le public et d'être sensible à la salle. Mon travail, c'est donc d'écouter et de mettre en image d'une manière ou d'une autre. J'essaie de me débrouiller pour créer une image. Je suis un peu piégée par le premier trait que je mets sur le papier. Puis je dis, bon, je fais quoi de ça? Et je lance sur le dessin une synthèse de ce que je viens d'entendre. J'essaie de le compléter après parce qu'il y a un nouveau mot qui vient d'arriver qui va donner au dessin un peu plus de sa légitimité. Et donc c'est un trait de plume et un petit peu de la vie avec un pinceau pour que ce soit simple, rapide, que ça puisse suivre la conversation, le discours, sans perdre trop la richesse qu'il y a là-dedans, dans tout ce qui est en train de se dire et qui est tellement vivant et qu'on a envie de récupérer comme tous les papillons et puis de les assembler sur un papier. Voilà, avec une petite légende de temps en temps, une phrase qui a été récupérée par quelqu'un qui a dit quelque chose de très chouette, qui mérite d'être l'accroche du dessin.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois. C'est la fin de cette émission aux rencontres d'Ambronay. Merci à tous nos invités pour leur participation, à l'équipe du CCR d'Ambronay et à Jimmy Francky à la technique. Bonne journée à toutes et à tous.